RFI, 7h, à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Mayol de Charon.
Bonjour Julien et bonjour à tous.
Et à la une, des tirs israéliens dans le sud du Liban provoquent un tollé international.
Ils ont blessé deux casques bleus sri-lankais. Hier, Israël affirme avoir tiré vers une menace près d'une position de la Finul. Économie, le verdict est tombé pour Paris. L'agence de notation Fitch maintient la note de la France, mais avec une perspective négative. Un avertissement pour le pays dans un contexte budgétaire compliqué. Au moins 17 morts et 50 milliards de dollars de dégâts. Les conséquences en Floride du passage de l'ouragan Milton. Près de 2 millions de foyers restent privés d'électricité dans l'État. Il avait été interdit en mars dernier. Le fournisseur d'Internet Starlink est à nouveau autorisé au Mali, mais il sera encadré. Une décision prise pour tenter de contrôler son utilisation. Et puis un hommage rendu ce soir à Paris au chanteur nigérian Fela Kuti, inventeur de l'Afro Beat. Plusieurs ensembles vont se produire dans la célèbre salle du New Morning.
Face au tollé international, Israël affirme avoir tiré en direction d'une menace près d'une position de la Finul dans le sud du Liban.
Deux casques bleus sri-lankais ont été blessés hier. La veille déjà, deux soldats indonésiens avaient été touchés. Des tirs qui ont provoqué l'émoi de la communauté internationale. Théo Renaudon.
Intolérable, inacceptable. Les mêmes mots reviennent en boucle dans la vague d'indignation qu'ont provoqué ces tirs israéliens. Espagne, Italie, Irlande, Union européenne, Royaume-Uni, tollé international contre l'armée israélienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que ces tirs ne devaient pas se répéter. La France, elle, par la voix de son président Emmanuel Macron, juge que les casques bleus ont été visés délibérément par Israël. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne le tolérerons pas que ça se reproduise, a prévenu le chef de l'État. L'ambassadeur israélien à Paris a été convoqué. Des réactions jusqu'en Chine. Condamnation ferme, demande d'une enquête. L'Italie, elle, persiste et condamne encore, elle qui a déjà convoqué son ambassadeur israélien hier pour explication, jeudi, Rome avait carrément parlé de crimes de guerre. Restent les États-Unis à la question d'un journaliste lui demandant s'il demandait à Israël d'arrêter de frapper les casques bleus. Le président Joe Biden a répondu oui, tout à fait.
Théo Renaudon. Et les bombardements israéliens se sont par ailleurs poursuivis hier à Gaza. La défense civile annonce la mort de 30 personnes dans une série de frappes.
Volodymyr Zelensky veut obtenir la fin de la guerre dans son pays en 2025.
Le président ukrainien a terminé hier à Berlin sa tournée européenne pour présenter son plan de victoire face à la Russie et réclamer davantage d'armes. Volodymyr Zelensky a obtenu la promesse que l'aide allemande ne faiblirait pas au moment où son pays est en difficulté sur le front face aux troupes russes. Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz prévoyait de réduire de moitié la somme allouée aux aides militaires bilatérales destinées à l'Ukraine.
C'est un sursis pour Paris. L'agence de notation américaine Fitch maintient la note de la France, mais avec une perspective négative.
C'est-à-dire que cette note actuellement de AA-, soit 17 sur 20, pourrait baisser dans quelques mois. Il faut dire que le déficit public s'est envolé cette année et le nouveau gouvernement vient de présenter son projet de budget de 2025. Justine Fontaine, l'agence Fitch met donc la France sous surveillance avant le vote du budget au Parlement.
Fitch envoie peu ou prou le message suivant. Attention, pour l'instant la note reste la même, double A moins, donc une bonne note, l'équivalent d'un 17 sur 20. Mais si les mesures qui sont prises pour contrôler le déficit ne sont pas assez strictes ou pas assez efficaces, eh bien cette note pourrait baisser. L'agence connaît depuis ce jeudi les pistes du gouvernement pour faire 60 milliards d'euros d'économies, supprimer des postes de profs dans l'éducation nationale, augmenter les taxes sur l'électricité ou encore augmenter les impôts des plus riches. Mais Fitch souligne qu'on ne sait pas encore ce qui sera effectivement voté au Parlement et que le déficit public ne devrait pas passer sous la barre des 3% avant 2029, soit 2 ans plus tard que prévu dans ses estimations précédentes. Si sa note était dégradée plus tard, la France devrait payer plus cher pour emprunter sur les marchés financiers et ensuite dépenser plus d'argent aussi pour rembourser sa dette et les intérêts chaque année, alors que c'est déjà le deuxième poste de dépenses publiques après l'éducation.
Et le ministre de l'économie Antoine Armand a indiqué de son côté prendre acte de la décision de Fitch, tout en ajoutant que l'agence avait souligné la force de l'économie française et l'efficacité des institutions du pays. Les deux autres grandes agences de notation, Moody's et Standard & Poor's, actualiseront leurs notes d'ici à la fin du mois prochain.
La situation reste tendue en Martinique malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne.
La nuit dernière, les forces de l'ordre ont tenté de contenir des émeutiers qui ont érigé des dizaines de barrages à travers l'île française des Antilles. 12 ont été légèrement blessés, 150 véhicules ont brûlé, 14 locaux commerciaux ont été incendiés. Selon une source préfectorale, 32 interpellations ont été effectuées. La Martinique est en proie depuis septembre à une mobilisation contre la vie chère qui a dégénéré avec des violences urbaines.
Aux États-Unis, près de 2 millions de foyers toujours sans électricité en Floride.
Conséquence de l'ouragan Milton qui a causé la mort d'au moins 17 personnes. Arbres déracinés, nettoie envolé, inondation dans une région déjà touchée par l'ouragan Helene. Les dégâts sont considérables. Le président américain Joe Biden a pris la parole hier.
C'est la troisième tempête majeure à frapper la Floride en trois mois. Et les experts estiment les dommages à environ 50 milliards de dollars, rien que pour l'ouragan Milton. Nous sommes en contact constant avec plus de 40 responsables locaux dans les États. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens à se remettre. À ma demande, les efforts du jour se sont concentrés sur le rétablissement du courant électrique et le déblayage des débris parce que ce sont des besoins urgents. Milton a laissé plus de 3 millions de personnes sans électricité, mais grâce aux efforts de plus de 50 000 techniciens de lignes électriques, de 43 États et du Canada qui se sont engagés et qui sont venus apporter leur aide, l'électricité a été rétablie pour 1 million de personnes jusque-là.
Le président américain Joe Biden est, d'après une analyse publiée hier par le réseau WWA, les précipitations engendrées par cet ouragan Milton ont été environ 20 à 30% plus élevées et les vents 10% plus intenses à cause du changement climatique.
Les États-Unis qui pourraient entreposer des armes nucléaires au Japon.
Un projet évoqué par le nouveau premier ministre japonais Shigeru Ishiba, nommé il y a 10 jours, un ministre pro-nucléaire dans un pays durement touché par les conséquences de l'arme atomique. Hier, l'ONG Nihon Hidankyo, qui représente les survivants des bombardements de Nagasaki et Hiroshima en 1945, a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat pour un monde sans armes nucléaires. Mais pour la chercheuse spécialiste des questions de défense, Marianne Perron-Oise, le premier ministre japonais estime ne pas avoir d'autre choix.
Ishiba, il voit une façon d'honorer le Japon, mais lui-même est quand même un homme qui est conscient de vivre entouré de pays assez dangereux, qui possèdent l'arme nucléaire. Que l'on regarde la Russie, que l'on regarde la Chine ou que l'on regarde la Corée du Nord, sont des États nucléaires. Et le Japon, qui bénéficie du soutien et de la protection militaire des États-Unis dans le cadre de ce traité de sécurité depuis les années 50, a augmenté ses capacités militaires, a renforcé ses moyens. Et c'est vrai que Ishiba, sur le nucléaire, a lancé récemment, à peine arrivé aux affaires, il vient à peine d'être nommé le 1er octobre Premier ministre, a émis l'idée d'un partage nucléaire avec les Américains, c'est-à-dire l'idée que les Américains pourraient entreposer des armes nucléaires sur le sol japonais.
Marianne Perron-Oise, chercheuse spécialiste des questions de défense.
Au Mali, le fournisseur d'Internet Starlink est à nouveau autorisé, mais il sera encadré.
Une décision des autorités maliennes de transition. Les services au débit de Starlink avaient été interdits en mars dernier. Le Burkina, la Côte d'Ivoire ou encore le Tchad avaient pris des dispositions similaires en raison de l'absence d'homologation de l'entreprise dans ces pays. Son utilisation était considérée comme illégale. Au Mali, les autorités de transition déploraient aussi leur utilisation par des groupes armés. Mais mercredi dernier, en Conseil des ministres, Bamako est donc revenu sur sa décision. David Bachet.
Encadrer plutôt que d'interdire. Les autorités maliennes de transition ont dû s'y résoudre après avoir constaté que les kits Starlink continuaient de fonctionner au Mali en dépit de l'interdiction. L'importation et la commercialisation des équipements Starlink sont donc à nouveau autorisées pour une durée de 6 mois, le temps de mettre en place un cadre réglementaire et une plateforme d'identification de l'ensemble des utilisateurs. Intégrer le fournisseur d'accès au marché légal pourrait ouvrir la voie à une taxation de Starlink qui échappe jusqu'ici aux obligations auxquelles sont soumis les opérateurs de télécommunications détenteurs d'une licence dans le pays. Surtout, Bamako souhaite connaître précisément qui utilise Starlink. Son réseau satellitaire unique, très dense, en orbite basse, permet de se connecter à Internet dans les zones les plus reculées. Raison pour laquelle ce fournisseur est très utilisé dans les confins désertiques du Nord, par des ONG, par des entreprises ou par des particuliers, mais aussi par tous les groupes armés présents, djihadistes ou rebelles. En légalisant Starlink, l'État malien souhaite disposer d'interlocuteurs officiels pour tenter de contrôler l'utilisation du matériel.
Les précisions de David Bechet.
L'avionneur américain Boeing annonce une réduction de près de 10% de ses effectifs mondiaux dans les prochains mois.
Cela représente près de 17 000 emplois, direction, encadrement, employés. Toutes les catégories de l'entreprise seront concernées, selon son patron Kelly Urberg. L'avionneur américain annonce également une série de mesures touchant son catalogue d'avions pour tenter de surmonter ses difficultés financières.
Et puis, un hommage rendu ce soir au chanteur et saxophoniste nigérian Fela Kuti, inventeur de l'afrobeat à Paris.
La célèbre salle du New Morning va accueillir le Fela Day à l'initiative de l'association Afrobeat No Limits. La soirée va rassembler la jeune et l'ancienne génération de musiciens d'afrobeat et notamment les ensembles Afrodream et Afrobeat Family. Olivier Roger.
A little bit faster, you know, I was going to say that.
Dans les studios de Canal 93 à Bobigny, les musiciens répètent sous les auspices de Muyiwa Kunuji, ex-trompettiste de Fela Kuti.
We do the same thing, s'il vous plaît.
À côté d'anciens musiciens de Fela, comme le guitariste Kiala Nzavotunga, Nazaire Bello, le producteur du Fela Day, a réuni des jeunes musiciens passionnés d'afrobeat. C'est le cas du saxophoniste Benoît Krost. Il a découvert l'afrobeat en 2011.
On s'est vraiment plongé dans la musique de Fela d'une façon vraiment quasiment scientifique. C'est-à-dire qu'on l'a pris pour ce qu'elle est. C'est une grande musique classique africaine.
Réunir plusieurs générations de musiciens d'afrobeat sur scène, c'est aussi rendre hommage à la complexité de cette musique, selon le DJ et producteur Ness Eramani.
C'est une musique compliquée parce qu'il faut beaucoup de musiciens pour qu'elle sonne. Au Fela Day, on sera 12, 13, 14, 15 quand même. Et je peux annoncer que Cheun Kuti sera là.
Le mot de la fin revient à l'initiateur de la soirée, le béninois Nazaire Bello, qui nous livre sa définition très personnelle de l'afrobeat.
Quand on dit afrobeat, ça veut dire que c'est le beat de Tony Allen. Et quand on l'entend, ça, il faut la voir. C'est un beat africain.
RFI vous propose un reportage avec les initiateurs et les musiciens de ce Fela Day. Ce sera à 9h20, heure de Paris. RFI, 7h12 à Paris. RFI Matin se poursuit avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Mayol de Charon, à tout à l'heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h, temps universel. Bienvenue à vous. Et alors que les yeux restent tournés vers Gaza et vers le Liban, cap ce matin sur la Cisjordanie occupée, théâtre indirect de la guerre lancée par Israël contre le Hamas depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Hier matin, l'armée israélienne annonçait avoir tué un chef du djihad islamique dans le camp de réfugiés de Nour Shams. Et depuis un an, des centaines de Palestiniens de Cisjordanie occupée ont été tués par des soldats ou des colons israéliens. Reportage aujourd'hui à Sinjil, à 15 km de Ramallah. Les habitants de la ville sont confrontés chaque semaine aux violences des colons, confiscation de terres agricoles, confiscation ou destruction de maisons, oliviers arrachés à l'aide de bulldozers de l'armée. Les intimidations et passages à tabac sont aussi le quotidien des citoyens palestiniens. Des agressions qui ont augmenté depuis l'an dernier. Fanny Léonore Crouzet nous emmène sur place.
Comme chaque matin depuis 4 jours, le bruit des bulldozers israéliens résonne à Sinjil. Les habitants ont été informés par les autorités israéliennes qu'un mur de béton d'1,5 km allait bientôt être construit ici. D'un côté de ce mur, il y aurait la ville de Sinjil, de l'autre, la route 60, empruntée par les Palestiniens et les colons. Elle coupe la Cisjordanie en deux, du nord au sud. Ziad Daoud est inquiet. Sa maison borde cet axe routier essentiel pour les habitants de la ville.
S'ils construisent un mur ici, on va être coupé des commerces. Et si on veut aller là-bas acheter quelques fruits, il faudra faire un détour de 7 km juste pour aller au village et revenir. S'ils finissent le mur comme ils l'ont prévu, ils nous isolent du village, ils nous isolent des membres de notre famille, ils nous isolent du monde entier.
L'armée avance l'argument de la sécurité pour justifier la construction du mur. Il protégerait les voitures israéliennes d'éventuels jets de pierres.
Puisque leur excuse, c'est que les enfants jettent des pierres, pourquoi ne commencer le mur qu'ici et laisser ma maison sans protection? Parce que d'un côté, ça va permettre aux colons d'accéder à ma maison. Malheureusement, nous avons eu des problèmes avec eux. Une fois, mon père ramassait du raisin devant la maison et on lui a tiré dessus.
Au sommet de la ville, perché sur une colline, Fouad observe les terres agricoles en contrebas. Cet habitant de Sinjil parle français.
Les montagnes que vous voyez là, toutes les maisons des Israéliens, c'était construit sur le terrain de Sinjil. On a perdu 8500 hectares. Si tu accèdes à ton terrain, tu vas arriver à une prison qui peut être tuée par les Israéliens.
De l'autre côté de la route 60, dans la vallée, des drapeaux israéliens sont plantés au milieu des oliviers. Sur ces terres désormais sous contrôle de l'État hébreu, il y a la maison de famille d'Ayed. Il observe de loin, craignant d'être vu par le poste de surveillance de la colonie.
Après le 7 octobre, j'ai essayé d'y aller, mais on m'a mis deux fois en garde à vue. En 1940, mon père est né ici, avec 12 de ses frères. Notre maison a été saisie par Israël quelques années après, avec 60 hectares de terre.
Depuis le 7 octobre, 741 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem par les forces israéliennes ou par les colons juifs, selon le ministère de la Santé palestinien. Fanny Léonore Crouzet, de retour de Sinjil, RFI.
Reportage en Cisjordanie occupée à retrouver sur RFI.fr. Il avait choisi de prendre les armes contre son propre pays, la Russie, pour défendre l'Ukraine. Ildar Dadin est mort sur le front dans la région de Kharkiv. Et l'annonce de son décès cette semaine a suscité une immense émotion dans les rangs de l'opposition russe. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Cet homme de 42 ans, originaire de Moscou, était en effet une figure emblématique au sein de cette opposition à Vladimir Poutine.
Oui, d'abord parce qu'il a été le premier de ses opposants à avoir été condamné à de la prison ferme en 2015, simplement pour avoir manifesté dans la rue. Et cela au nom d'un article du code criminel russe adopté sous la pression de Vladimir Poutine pour réprimer ses opposants. C'était alors le premier signe avant-coureur de la machine répressive qui allait progressivement broyer l'opposition russe. Olga Prokopieva, présidente de l'association Russie-Liberté.
Uniquement parce que il s'était rassemblé plusieurs fois lors de manifestations et de piquets sectaires, il a été condamné à plusieurs années et il est devenu une personne vraiment qui incarnait la résistance non violente justement, puisque la seule chose qu'il faisait et pour laquelle il a été injustement condamné, c'est de sortir pacifiquement dans la rue pour s'opposer aux falsifications et s'opposer aux dérives répressives du régime poutinien.
Né dans la région de Moscou en 1982, à l'époque soviétique, Ildar Dadin devient agent de sécurité après son service militaire et il se met à militer au début des années 2010. C'est ce qu'il raconte dans un entretien accordé quelques années plus tard à l'ONG russe OVD Info.
J'ai manifesté pour la première fois sur la place Bolotnaya à Moscou en décembre 2011. J'étais indigné par la victoire frauduleuse de Russie unie aux élections et j'avais réalisé que nous étions trompés par le pouvoir.
Un engagement qui le conduit, Daniel, en prison où il sera battu et même torturé.
Oui, c'est pour cela également que le nom d'Ildar Dadin est connu en Russie parce qu'il fut l'un des premiers à dénoncer la pratique de la torture dans les prisons russes. À sa libération, il continue de militer malgré les risques encourus. Puis, en 2022, c'est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et Ildar Dadin prend la route de l'exil. Il se rend d'abord en Pologne, puis en Ukraine, où il s'engage donc dans les bataillons de volontaires russes. Cécile Vessier, professeur en études russes à l'université de Rennes 2.
Il aurait pu rester tranquillement dans l'immigration. Il était parti à Varsovie, il aurait pu rester à Varsovie. Et il a dit non, je dois prendre la défense du plus faible, y compris quand il s'agit de lutter contre les troupes de son propre État. Tout en disant qu'il est pacifiste, qu'il déteste l'idée de tuer quelqu'un, mais que face à un mal aussi immense que celui que représente la Russie lorsqu'elle attaque l'Ukraine, il doit s'opposer de la façon la plus efficace qui soit. Et il avait cette phrase, la seule façon que je vois de s'opposer au crime commis par la Russie, c'est malheureusement de tuer le tueur.
Pour se battre, Ildar Dadin intègre la Légion Liberté de la Russie.
Oui, un groupe de volontaires russes qui veut défendre l'Ukraine, bien sûr, mais qui veut aussi préparer la lutte armée contre le régime de Vladimir Poutine. Un choix et une stratégie qui sont loin de faire consensus au sein de l'opposition en exil. Anne Le Huéron, maître de conférence à l'Université de Nanterre et spécialiste de la Russie.
Certains leaders de l'opposition se sont positionnés pour et d'autres sont résolument contre en estimant qu'il n'y aurait rien de pire que d'ajouter à cette guerre d'agression que mène la Russie et à cette répression des éléments de ce qu'on pourrait appeler une guerre civile et considèrent que ce n'est tout simplement pas possible non plus aujourd'hui de vaincre le régime de Vladimir Poutine par une résistance armée.
Et loin des débats et des dissensions qui agitent l'opposition russe en exil, Ildar Dadin avait, lui, choisi d'agir au péril de sa vie. Le destin tragique et emblématique d'un opposant à Vladimir Poutine, des premières manifestations pacifiques pour dénoncer la fraude électorale à la guerre totale menée en Ukraine par le régime russe.
L'Européen de la semaine avec vous, Daniel Vallaud. Merci beaucoup. Libéria, Soudan, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Gabon, Éthiopie, Centrafrique, Tunisie, que deviennent les anciens chefs d'État de cette longue liste de pays et d'autres? C'est la question à la une de Jeune Afrique aujourd'hui. Le directeur de la rédaction du magazine François Soudan est au téléphone de Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur les ex-chefs d'État africains qui connaissent des sorts variés. Certains sont en prison, d'autres en exil. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Jeune Afrique détaille la situation de ces anciens chefs d'État africains. Ils sont une quinzaine. On fait le point avec vous et on commence par les moins chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les barreaux.
Oui, c'est une infographie, Catherine, conçue par Mélisse Dudoué et Mathieu Milcan, qui démontre entre autres à quel point les alternances pacifiques et démocratiques sur le continent, c'est toujours aussi fragile. Alors, première catégorie, vous l'avez dit, ceux qui ont été condamnés, qui sont actuellement en prison, c'est le cas emblématique du Libérien Charles Taylor, arrêté en 2006, condamné à 50 ans de détention pour crime contre l'humanité et qui purge sa peine actuellement dans la prison de Frankland, dans le nord de l'Angleterre. Le cas aussi du Soudanais Omar El-Béchir, condamné pour corruption en 2019, incarcéré à Khartoum, puis détenu dans un hôpital du nord du pays et dont la CPI réclame en vain l'extradition. Deuxième catégorie, Catherine, ceux qui sont retenus chez eux contre leur gré en résidence étroitement surveillée, c'est évidemment le cas du Nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch militaire il y a maintenant 15 mois et que la Cour d'État de Niamey a décidé de poursuivre sous le chef, pour le moins spécieux, de haute trahison. Le cas aussi du Burkinabé Kaboré, retenu depuis janvier 2022 par la junte militaire dans une villa d'Ouagadougou. Le cas également du Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui purge reclus dans un appartement de Nouakchott, une peine de 5 ans de prison pour enrichissement illicite, blanchiment, un jugement qu'il conteste en appel, Catherine.
Et parmi ces chefs d'État toujours en résidence surveillée, vous vous arrêtez notamment sur le cas de l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, toujours donc en résidence surveillée depuis sa chute en août 2023.
Oui, Ali Bongo Ondimba, depuis septembre 2023, ne fait pas l'objet de poursuites. Bon, il a reçu l'autorisation de quitter sa résidence surveillée de Libreville pour se rendre à l'étranger. Il refuse de partir sans sa femme Sylvia, son fils Nordine, qui sont eux poursuivis. Et selon nos informations, détenus dans les sous-sols du palais du bord de mer, des négociations sont en cours sur fond de tentatives de récupération de la fortune des Bongo par le nouvel exécutif gabonais, mais elle piétine, Catherine.
Enfin, François Soudan, il y a une troisième catégorie d'anciens chefs d'État africains, celle des exilés. Et là, il y a du monde.
Ah, tout à fait. Le doyen, dans tous les sens du terme, des exilés s'appelle Mengistu Haile Mariam, l'ancien dictateur éthiopien, condamné à mort par contumace chez lui et qui vit depuis 33 ans dans une villa de Harare au Zimbabwe. Il a aujourd'hui 87 ans. Dans cette catégorie, on trouve aussi le Gambien Yahya Jammeh, chassé du pouvoir, installé depuis 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Mauritanien Ould Taïa, qui vit depuis son renversement il y a près de 20 ans à Doha, au Qatar. Le Guinéen Alpha Condé, bien sûr, en exil à Istanbul, mais qui dit se trouver aujourd'hui quelque part en Afrique. Figurent également deux anciens chefs d'État centrafricains, François Bozizé en Guinée-Bissau Michel Djotodia au Bénin, un Tunisien, Monsef Marzouki, réfugié à Paris depuis qu'il a eu maille à partir avec la justice et surtout avec le régime de Kais Saied, et pas moins de 3 Burkinabés, Blaise Compaoré, évidemment chassé du pouvoir il y a 10 ans, exfiltré vers la Côte d'Ivoire, condamné par contumace à la prison à perpétuité, Yacouba Isaac Zida, on s'en souvient à peine, éphémère chef d'État pendant 20 jours suite à la chute de Compaoré, en exil au Canada. Et enfin, Paul Henri Sandaogo Damiba, colonel putschiste renversé après 8 mois au pouvoir en 2022 par un autre putschiste, le capitaine Ibrahim Traoré, lequel réclame aujourd'hui son extradition auprès des autorités togolaises. Comme vous le voyez, le métier de président a beau être pour certains une rente de situation, il est tout sauf une assurance tout risque. Alors faudra-t-il bientôt ajouter à cette liste, Catherine, les noms de Joseph Kabila et de Macky Sall, qui se trouvent aujourd'hui l'un en Afrique du Sud, l'autre au Maroc? L'avenir le dira.
Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
François Soudan de Jeune Afrique avec Catherine Potet que vous retrouvez tout à l'heure pour la revue de presse. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui vous touche particulièrement, ayant été community manager pour des studios de jeux vidéo. On parle du harcèlement des développeurs par les joueurs.
Oui, le harcèlement des développeurs par les joueurs est un phénomène de plus en plus fréquent qui touche tous les métiers de l'industrie et qui s'est encore plus banalisé depuis le Gamergate.
Alors Jennifer, qu'est-ce que le Gamergate ?
Le Gamergate, c'est une série de polémiques qui est née durant le mois d'août 2014 et qui a évolué en une campagne de harcèlement sexiste contre des femmes journalistes et développeuses. C'est une époque qui a cristallisé et mis en lumière la violence en ligne contre les travailleurs du secteur du jeu vidéo, et force est de constater que depuis, les choses n'ont pas tant évolué. Si les jeux créent des discussions, ce que l'on réalise moins, c'est que ces critiques débordent bien souvent du cadre du débat pour devenir des campagnes de haine et de harcèlement. Prenons un exemple marquant dans l'industrie, Ubisoft. Lorsque certains jeux comme Assassin's Creed, Valhalla ou encore Far Cry 6 n'ont pas répondu aux attentes des joueurs, les développeurs ont reçu des menaces de mort et des insultes sur leurs réseaux sociaux. Sur les plateformes, de nombreux joueurs appellent à boycotter les jeux d'Ubisoft, soit parce qu'ils sont nostalgiques des anciennes licences comme Rayman ou les premiers Assassin's Creed, soit parce que la position d'Ubisoft pour représenter des personnages divers fâche. Mais ce sont aussi les échelons moins visibles qui souffrent. Les community managers, par exemple, sont des ponts entre le public et les équipes de développement, et eux sont en première ligne. Leur rôle, qui consiste à recevoir les retours des joueurs, se transforme souvent en cauchemar quand ils sont submergés par des messages de haine.
Un autre cas particulièrement révélateur est celui de The Last of Us Partie 2, un jeu acclamé pour sa narration audacieuse, mais qui a divisé une partie du public.
Oui, dans The Last of Us Part 2, l'actrice Laura Bailey, qui a prêté sa voix et son visage au personnage de Abby, a elle aussi été victime de harcèlement. Sur Twitter, elle a partagé des captures d'écran de messages horribles qui lui souhaitaient la mort, à elle et à sa famille. Tout ça parce que certains joueurs n'ont pas apprécié le rôle d'Abby dans le jeu. N'oublions pas que le harcèlement a un impact dévastateur sur la santé mentale des équipes de développement. Les burn-out se multiplient dans l'industrie, poussés par une pression à la fois interne, liée à des délais serrés notamment, mais aussi une pression externe alimentée par la haine en ligne.
Alors, que faire face à ce fléau ?
De nombreux studios commencent à prendre des mesures. Chez Ubisoft, un effort est fait pour protéger les employés en limitant leur exposition publique et en renforçant la modération des réseaux sociaux. Mais ça ne suffit pas. Il est crucial que des plateformes elles-mêmes comme Twitter, Instagram ou encore Discord prennent leurs responsabilités et interviennent plus efficacement pour empêcher ces campagnes de harcèlement. De notre côté, en tant que joueurs, nous devons aussi prendre conscience de l'humain derrière chaque jeu vidéo. Si un jeu ne nous plaît pas, eh bien inutile d'insulter les parents des développeurs. De plus, les employés des studios ne sont pas décisionnaires sur la direction que prennent les jeux. La plupart du temps, ce sont les dirigeants et les actionnaires qui tirent les ficelles. Rappelons enfin que chaque titre représente des milliers d'heures de travail, de la passion et parfois des sacrifices personnels énormes. Les travailleurs du jeu vidéo, comme tous les autres, méritent le respect.
Jennifer Lufaux, bienvenue dans le game. Merci beaucoup. Et sur RFI, il est bientôt 5h30 en temps universel. La suite, c'est dans quelques secondes maintenant avec le journal Afrique. À tout de suite.
L'Afrique en jeu, sport en légende. Silver Henry Cissé.
Le basketteur américain Michael Jordan a marqué son époque comme nul autre sportif. Ce phénomène incarne aussi toutes les contradictions que nous n'aimons pas voir chez les dieux du stade. À découvrir dans une mise en récit et analysée avec l'historien François Doppler-Speranza.
L'Afrique en jeu, sport en légende, avec Silver Henry Cissé, tout à l'heure à 11h30 TU sur RFI.